Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hashtags. Stéphane, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien et toi?
Écoute, ça va, bonne année.
Allez, bah, toi aussi, merci.
Donc on est reparti pour une nouvelle année de Hashtags, année numéro 2, ou numéro 3 en fait, parce qu'on avait commencé en 2018. Mais bon, c'était, on va dire que notre première année, ça a vraiment été 2019, donc on est parti, une nouvelle année, plein de projets et plein de nouvelles autour des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on nous souhaite?
Bon, comme d'habitude, hein, je pense, du bonheur, de la bonne santé,
Et puis des podcasts.
et puis des podcasts.
Ok, on attaque?
Allez. D'ailleurs, on parle encore de TikTok 3 ans après. Tiens.
Ouais, donc ouais. Et puis, je pense qu'on n'a pas complètement fini de parler du web chinois et des réseaux sociaux chinois. Voilà, je fais un petit teaser en passant. Vous verrez probablement dans les prochaines semaines de quoi je veux parler. Mais là, on parle de TikTok et on parle de TikTok qui a défrayé un petit peu la chronique sur un sujet sur lequel on n'attend pas forcément. Puisque c'est les militaires qui ont parlé de TikTok. Stéphane, est-ce que tu veux nous en parler?
Oui, donc bah en fait globalement les militaires américains ne peuvent plus utiliser TikTok sur le téléphone mobile et donc les téléphones mobiles qui sont donnés par le gouvernement américain parce que TikTok est considéré comme un risque de sécurité de cybersécurité et en fait c'est pas la première fois que le gouvernement émet des alertes un peu de ce genre. Il l'avait déjà fait pour des applications de dating ou de tracking comme Grindr et Strava, c'est ça?
Ouais.
Qui permettait de vraiment savoir où se situaient les soldats américains et ce qu'ils faisaient en fait. Donc c'était d'un point de vue sécurité, c'est quand même assez important.
Ouais, et pour donner un peu de contexte autour de Strava, donc Strava, c'est une application, c'est un réseau social dans une certaine mesure, mais c'est un réseau social autour de l'activité physique, les athlètes en particulier. Initialement, c'était pour le cyclisme, mais ils ont étendu ça à plein d'autres activités. Et l'idée, c'est en fait de partager, alors en temps direct, en différé, son activité sportive. Donc vous faites une grande balade à vélo, par exemple, et vous pouvez en live partager votre activité physique ou alors le faire après coup sur votre feed et donc du coup ça permet à vos amis de savoir ce que vous avez fait. Le seul problème c'est qu'en fait Strava avait une fonction de map de carte en direct et donc du coup on pouvait voir non seulement ses amis mais aussi des gens qui utilisaient la plateforme et voir où est-ce qu'ils avaient effectué une activité physique donc Strava s'est retrouvé à leaker en fait des activités de forces spéciales dans des zones du monde où il y a pas de militaires américains parce que en fait les soldats en question s'étaient retrouvés à s'entraîner et à faire et à aller courir, mais à aussi au passage enregistrer leur activité sur Strava. Donc ça avait posé tout un tas de problèmes sur des questions de stratégie et de confidentialité du déploiement des soldats américains. Là c'est un petit peu différent. On parle de quelque chose qui s'était passé il y a 2 ans maintenant, donc ça fait un petit moment. Mais là on parle de TikTok, donc c'est un petit peu différent. Excuse-moi, donc je t'ai interrompu. Mais tu étais en train d'expliquer qu'en fait c'est le problème principal c'est que TikTok c'est un réseau social qui appartient à une société chinoise en fait.
Exactement. Et c'est un peu le même problème avec Grindr donc Grindr c'est un problème qui est assez similaire finalement puisqu'en fait c'est une application de dating qui permet d'échanger des messages et puisque c'est une application de dating pour les gays, en fait, il y a une problématique un peu plus importante qui permet de, parce qu'en gros, il y a beaucoup de politiciens qui ne sont pas sortis du placard et qui utilisent Grindr. Et donc, du coup, l'idée, c'est de ce problème, c'est que des gouvernements étrangers, en fait, qui peuvent avoir accès à ces données, peuvent, utiliser ça comme un moyen de pression sur la diplomatie américaine, par exemple.
Ouais, absolument. Et Grindr, pour info, c'est un peu le précurseur de Tinder en fait. Grindr faisait ce que fait Tinder avec swipe left et swipe right avant que Tinder le fasse. Hein.
Non, il n'y a pas vraiment de swiping sur Grindr. C'est juste, les gens s'affichent par distance. Mais c'est vrai que ça, c'est d'un point de vue, comment dire, dating online, c'était vraiment précurseur à Tinder, c'est vrai.
Ah, il n'y a pas de swipe alors, du coup?
Non, je crois pas. Bah, ah, tu. Non. Okay. Bah, je crois pas, non. Non. Et ceci dit, donc, ceci étant dit, la compagnie donc, qui est propriétaire de Grindr, donc c'est une compagnie chinoise. En fait, Grindr a commencé à LA, ça a été vendu à une compagnie de gaming à Pékin. Et en fait, quand les États-Unis se sont rendus compte de tout ce problème, en fait, ils ont un peu forcé cette compagnie à prendre une décision, soit vendre Grindr et pouvoir continuer à opérer aux États-Unis, ou alors ne pas vendre Grindr et Grindr resterait chinois. Et dans ce cas-là, ça resterait en dehors des États-Unis. En fait, ça serait interdit. Et à la suite, la compagnie chinoise a décidé d'accepter cette demande et donc de vendre Grindr à une compagnie qui ne soit pas chinoise. Je crois pas que ça a été fait encore, mais c'est en process. La décision a été prise l'année dernière, donc.
Ouais, et ça
ils sont c'est en train de chercher un acheteur.
Ouais, ça intervient presque plusieurs années après le rachat, en fait, si je me rappelle bien. Enfin, c'est quelque chose qui a mis énormément de temps à aboutir. En gros, alors je sais plus exactement quel organisme américain s'est rendu compte du risque potentiel, mais du coup, ils ont réagi très très tard et ils se sont dit que bah oui, ça posait un problème et qu'il fallait agir rapidement. Mais en gros, ils ont réagi plusieurs années, enfin ou en tout cas plusieurs mois après le rachat en question de Grindr par sa société chinoise.
Ouais, parce que c'est vraiment, enfin les données qui sont sur Grindr, c'est il y a vraiment beaucoup d'informations là. Donc, y a la localisation des gens, il y a leurs messages, parfois il y a des photos, il y a aussi leur statut VIH. Donc c'est vraiment des données qui sont considérées.
Qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une fuite de données. Je sais pas si tu te rappelles.
Exactement. Ouais. Et je me demande si c'est pas ça qui a initié tout ce questionnement de la part
c'est possible.
De l'agence du comité sur les investissements étrangers.
Ouais,
des
c'est
États-Unis.
Ça. Ouais.
Et donc finalement, en fait, on se retrouve un peu avec la même situation avec TikTok, qui même si c'est pas des données aussi sensibles, ça reste des données qui permettent de potentiellement d'espionner en fait finalement sur les militaires américains.
Ouais, absolument. Et potentiellement manipuler aussi. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec Facebook et Cambridge Analytica et les différentes élections, que ce soit le Brexit en Angleterre ou l'élection américaine en 2016. Donc on se rend compte que finalement des apps de réseaux sociaux sont un peu moins bénignes qu'on pensait et typiquement, c'est pas uniquement pour pouvoir surveiller ou avoir des informations personnelles sur les utilisateurs, mais il y a aussi une certaine capacité à potentiellement manipuler les utilisateurs. Ouais. Et pour en revenir un petit peu sur TikTok, c'est vrai qu'on n'a pas complètement fixé le contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, les militaires américains ne peuvent plus utiliser TikTok aujourd'hui sur leur téléphone mobile de fonction, entre guillemets. Donc, les téléphones qui appartiennent à l'État américain et qui sont utilisés par les militaires, de la même façon que vous avez peut-être un téléphone de fonction qui est donné par votre société et payé par votre société. Bon, typiquement, c'est pour les gens qui travaillent pour l'armée américaine. Ils ont plus le droit d'installer TikTok sur ces téléphones-là. Et clairement, donc une des porte-paroles de l'armée a considéré que TikTok était officiellement vu comme une menace cyber par l'armée américaine. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que pour l'anecdote, l'armée américaine utilisait TikTok il y a encore quelques mois pour leur effort de recrutement. Donc c'est là où on se dit qu'il y a quand même une certaine ambivalence sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui est, bon, comme vous le savez si vous écoutez un petit peu Hashtags, TikTok est très 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 utilisé, en particulier par les jeunes entre on va dire 12 et 20 ans. Et donc du coup, bah c'est un outil assez efficace de recrutement pour l'armée. Le seul problème, c'est que bah là du coup, bah je pense qu'ils vont probablement arrêter de l'utiliser, ou en tout cas l'utiliser de façon très restreinte pour leur effort de recrutement. Et puis donc on dit que TikTok est chinois. En pratique, c'est pas exactement le cas. Il appartient à ByteDance, qui est clairement une boîte chinoise. Mais ByteDance et TikTok, c'est la version américano-occidentale en fait d'un service qui est aussi présent en Chine et en Asie. Et donc, Biden affirme que les données des utilisateurs de TikTok américains sont stockées aux États-Unis et qu'ils ont juste un backup à Singapour, mais ces données, a priori, d'après ce qu'ils disent, ne sont pas stockées en Chine. Donc c'est assez compliqué à vérifier et bon pour l'instant on va dire on est un peu condamné à les croire, mais c'est pas forcément très très facile de faire un audit sur la question et de s'assurer qu'ils disent vrai à 100%. Et à tel point
mais,
donc tu vas-y.
Ouais, ceci dit, il y a aussi des en fait tu peux parler de choses j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les habitants de la Chine peuvent voir sur TikTok depuis la Chine, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de contenu qui traite de questions, par exemple, des questions politiques qui sont chères à la Chine, qui leur posent problème, que tu peux voir du côté américain. Donc, par exemple, ce qui se passe avec le peuple des Ouïghours. Et donc, il y a eu un fil de discussion entre jeunes à propos de tout cela, qui a pas du tout été censuré, en tout cas du côté américain. Mmh. Et donc, la question, c'est aussi de se dire, ben, finalement, est-ce que les deux réseaux sont pas vraiment vraiment séparés, dans le sens où TikTok est vraiment, comme tu dis, la face occidentale de ce service, et que finalement, en fait, la Chine n'a pas vraiment d'intérêt à stocker ces données en Chine, puisque de toute façon, pour eux, c'est complètement séparé, en fait. Les gens en Chine n'ont pas vraiment accès aux vidéos de TikTok.
Ouais, mais malgré tout, quand t'as l'opportunité d'avoir accès en Chine à tout un tas d'informations sur ton utilisateur américain, ouais, je sais pas.
Ouais.
Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que finalement, TikTok, on dit TikTok c'est chinois. En pratique, le service appartient à une société chinoise, mais le service TikTok est quand même très américano-centrique, ou en tout cas très et pas forcément aussi chinois que ça, mm-hmm. De par ses utilisateurs et le contenu que l'on trouve dessus, quoi. Mais malgré tout, on sait comment ça marche, toi et moi, hein. Quand tu appartiens à une société tech, l'endroit où les dates où les données sont c'est très important, et puis tu utilises aussi les données pour comprendre au moins comprendre comment les utilisateurs utilisent ton produit et essayer d'améliorer ton produit, donc c'est vrai que je peux quand même comprendre que Biden aurait quand même un certain intérêt à avoir accès à ces données en Chine, quoi.
Oui, exactement. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour eux d'avoir accès aux données en Chine? En fait, ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent tout à fait faire ce qu'ils ont envie de faire en ayant les données aux États-Unis. Honnêtement, les lois américaines sur le traitement des données sont pas si si protectrices que cela.
Pour l'instant. Et c'est en train de changer.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Surtout avec la Californie, mais.
Ouais.
Mais c'est pas impossible que de toute façon, en fait, ça leur est égal, en fait, parce que. Ils peuvent de toute façon faire ce qu'ils ont envie de faire avec les données en Chine. Et... Ouais.
Ouais. Et un dernier petit point pour cette histoire de TikTok. Donc TikTok a priori, il y avait des rumeurs de Bloomberg qui affirmaient que Biden serait cherché à vendre TikTok fin décembre. Biden s'a démenti aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu c'est assez bizarre. Bloomberg, ils sont assez spécialisés sur les scoops qui tombent à l'eau en ce moment. ils annoncent beaucoup de choses et c'est quand même c'est assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est eux qui avaient annoncé qu'il y avait beaucoup de qu'il y avait des équipes, enfin des fabricants de puces chinoises qui avaient
oui.
intégré du matériel, enfin du hardware pour espionner.
Mais ils ont toujours pas démenti d'iPhone. D'ailleurs.
Non, ils ont pas démenti, mais malgré tout, ça a été corroboré par pas grand chose aujourd'hui, et ça a été fortement démenti par Apple.
Tout le monde.
Ça a un peu fait flop, ouais, c'est ça. Mais c'est bizarre parce que encore une fois, Bloomberg est quand même connu pour être un média plutôt sérieux, et c'est vrai que là, ils annoncent beaucoup de choses qui tombent un peu à l'eau. Donc je sais pas quoi en penser. Mais voilà, donc ouais, il semblerait que Biden, c'est quand même entre guillemets recherché dans une certaine mesure à voir s'il y avait une opportunité de vente, un petit peu pour les questions qu'on a évoquées sur la question de Grindr, j'imagine. Mais bon, je pense qu'il y a pas grand monde qui est suffisamment gros aujourd'hui pour acheter TikTok, à part Facebook et peut-être Google, et encore je pense qu'il y a pas grand monde qui serait capable de racheter TikTok aujourd'hui.
C'est vrai. Mais en même temps, si les États-Unis font un peu comme avec Grindr, où ils menacent de de comment dire de bannir le réseau social complètement d'internet sur leur territoire, la valeur de TikTok elle sera pas non plus énorme en fait.
Oui c'est vrai, ouais, c'est un peu ouais, c'est un peu une
c'est le problème de Grindr en fait, parce que Grindr sans les États-Unis finalement en Europe ici c'est pas le enfin c'est un des réseaux les plus importants dans la communauté, mais c'est pas le plus enfin il y a beaucoup d'autres il y a de grosses alternatives qui pourraient tout autant le remplacer, contrairement aux États-Unis où ça reste un des premiers, donc leur premier marché je pense que ça reste les États-Unis.
Ouais. Et puis c'est clairement le cas pour TikTok aussi. Donc voilà. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas la dernière fois qu'on vous en parle. donc voilà, on va continuer à suivre l'histoire de près. Mais c'est clair que c'est marrant de voir. Enfin, c'est marrant de voir que c'est des sujets qui touchent à peu près toutes les parties de notre société. Enfin, TikTok et les militaires. Mmh. Je pense que quand on a commencé à parler de TikTok l'année dernière, on n'aurait pas forcément imaginé. Que ce soit un sujet qu'on couvre un an plus tard. Donc voilà, qui sait, un jour on vous parlera peut-être de TikTok interdit sur la station spatiale internationale pour des raisons de confidentialité et de secret industriel. Mais voilà, si vous êtes dans l'armée américaine, utiliser TikTok, ça va devenir de plus en plus compliqué. On enchaîne ?
Ouais.
Alors, Stéphane, est-ce que tu connais les bullet comments ?
Je connaissais pas vraiment avant que tu m'en parles, il y a une heure, même pas, 40 minutes. mais maintenant, oui, un peu mieux.
Voilà. Donc maintenant que t'es un expert, tu nous racontes ce que c'est?
Donc ce que j'ai compris, en fait, en 10 minutes, c'est, en gros, c'est des commentaires de gens qui regardent des vidéos, qui s'affichent sur la vidéo, et qui sont, c'est pas des vidéos en direct d'ailleurs. Ce sont vraiment des commentaires qui ont été écrits au moment où la personne a regardé la vidéo, et ensuite les commentaires sont diffusés. Si moi je regarde la vidéo un autre jour, je verrai ces commentaires. En fait, c'est ça.
Ouais, c'est une bonne description. En gros, ouais, c'est ça. C'est tu me faisais le parallèle avec Periscope ou Meerkat pour les gens qui s'en rappellent. Et en fait, ou même on va parler de Twitch un petit peu plus tard, ou même Twitch. Là, c'est un petit peu différent. En fait, c'est pas un commentaire d'une vidéo live. L'idée, c'est plutôt vous regardez une vidéo. Imaginons vous regardez votre série sur Netflix ou vous regardez une vidéo sur YouTube. Et vous avez en surimpression et d'ailleurs allez voir je vais faire le chapitrage, donc si vous écoutez le podcast sur un lecteur de podcast qui supporte le chapitrage, vous aurez et les thumbnails, vous serez capable de voir la vidéo, mais en gros enfin la photo du lecteur vidéo, mais en gros imaginez plein de textes qui s'affichent en surimpression sur la vidéo. C'est pas comme si vous aviez des sous-titres, hein. Là on parle vraiment de, c'est l'étape du dessus, hein. Vous avez plein de textes affichés en surimpression sur votre vidéo, et donc du coup ce texte là c'est les commentaires d'un certain nombre d'utilisateurs qui sont un peu triés sur le volet en fait. Et qui ont le droit de poster des vidéos et de faire des poster des commentaires plutôt sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, et donc leur commentaire est entre guillemets associé, enfin ancré à un certain moment de la vidéo. En fait, c'est pas comme si ils taguaient la vidéo, enfin en gros c'est pas un graffiti qui reste tout le long de la vidéo, mais ils apparaissent à un moment donné attaché à une scène, à un moment clé de la vidéo, et ils disparaissent après, ils sont remplacés par d'autres commentaires.
C'est un peu comme, dans une certaine mesure, c'est un peu comme quand tu écoutes une musique sur SoundCloud où tu peux voir un peu les commentaires.
Ouais, c'est une bonne analogie. Ouais, clairement. Et donc, alors du coup, d'où est-ce que ça vient? Donc, il y a deux sites en fait qui ont commencé à lancer ça. Donc je crois que à la base c'est un manga en fait qui a lancé ce concept. Alors je sais plus, il y a Nico Nico et Bilibili, et j'arrive plus à savoir si Nico Nico c'est le nom du manga. Non, Bilibili c'est le manga. Le ouais, c'est ça, hein, tu confirmes?
Le site c'est Nico Nico.
Voilà, c'est ça. Et Bilibili donc c'est le manga, et Nico Nico c'est le c'est le nom un peu bizarre, mais bon. Je ne juge pas. Nico Nico c'était donc le, d'après ce que j'ai compris, le site de la communauté qui a lancé les bullet comments. Et donc l'idée c'était d'avoir tous les fans du manga en question qui se retrouvent pour pouvoir regarder leur manga ensemble, et un petit groupe de super fans ou de gens qui sont particulièrement comment dire, éduqués sur le manga en question, qui ont le droit de poster des commentaires et de commenter donc par l'intermédiaire de ces bullet comments directement sur la vidéo certaines scènes du manga. Et à tel point que ils ont démarré, en fait il y avait un questionnaire à remplir pour en gros être sélectionné comme commentateur. Et a priori le questionnaire était super compliqué, donc fallait vraiment être un super fan et connaître Bilibili sur le bout des doigts. Encore une fois, c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler avant de m'intéresser à la question. Donc c'est quand même a priori un manga qui est assez obscur. Enfin, je dis manga d'ailleurs, mais c'est pas manga, c'est animé.
C'est un animé, ouais.
Ouais, donc c'est un animé assez.
On va se faire taper.
Je suis désolé. Donc un animé, donc un dessin animé de manga. Et donc oui.
Dans 10 minutes, on va parler des Meuporg.
Qu'est-ce que les Meuporg? Il y a plein de gens qui ont aucune idée de ce que c'est que qui ont aucune idée de la référence que tu viens de citer, mais ouais. Donc ouais, on fait du mieux qu'on peut. Hein. C'est des sujets qu'on maîtrise dans une certaine mesure, mais on s'aventure des fois sur des territoires qu'on connaît un peu moins. Mais donc voilà, donc il y avait un questionnaire à remplir, très dur, et donc du coup seulement les gens qui arrivaient à passer un certain niveau sur le questionnaire avaient le droit de poster des commentaires. Et donc voilà, donc ça a été un peu généralisé après par un autre site qui s'appelle AC Fun, qui est un site chinois de vidéos. Et donc du coup tu te retrouves avec qui est aussi spécialisé a priori quand même pas mal sur les mangas, mais donc du coup progressivement beaucoup d'autres sites chinois se sont mis à adopter ce format, et c'est marrant parce que c'est quand même une technologie, mais c'est pas vraiment une technologie, mais c'est quand même un concept qui est très sino-chinois,
et mais du coup est-ce que c'est que parce que c'est pas appliqué uniquement sur impression sur des animés, il y a aussi d'autres types de vidéos qui ont ce...
Exactement. Ouais, ça s'est développé, et donc du coup tu as beaucoup de séries chinoises qui ont leur bullet comment, leur version bullet comment. D'ailleurs en chinois on dit danmu, apparemment mon accent doit pas être très très bon, mais donc c'est plus que un certain nombre, enfin c'est plus qu'un site ou deux qui supporte ça, et c'est plus que juste les fans de Bilibili qui utilisent maintenant ce système, et c'est quelque chose qu'on retrouve en Chine sur tout un tas de services de streaming chinois en fait. Mais étonnamment, c'est pas forcément quelque chose qui est venu jusque chez nous. J'ai fait un petit peu de recherche pour savoir s'il y avait des solutions qui existaient pour utiliser ça sur Netflix par exemple. Netflix qui tourne dans un navigateur, on pourrait très bien imaginer une extension Chrome par exemple, ou une extension du navigateur qui permettrait de faire ce genre de choses. Et j'ai rien trouvé, donc peut-être que j'ai pas suffisamment cherché.
Je pense que c'est quand même assez récent. Il y a même pas de page Wikipédia en anglais pour cela, donc.
C'est vrai.
Non, donc c'est vraiment. Je pense que c'est assez récent. J'ai l'impression que ça date de même pas il y a un an en Asie, donc le temps que ça arrive. Et puis c'est aussi, je pense que les gens, en tout cas aux États-Unis, ont plus de difficultés à accepter cette intrusion sur ce que t'es en train de regarder en fait.
Ouais.
Et puis aussi, je pense la langue en fait, le fait que le chinois, le coréen et tout, ce sont des langues qui sont quand même assez condensées.
Ouais, c'est exactement. J'allais y arriver en fait. C'est vrai que, je pense que si on devait faire ça en anglais ou en utilisant l'alphabet roman, je pense que ce serait quand même beaucoup plus compliqué. L'alphabet latin, ce serait beaucoup plus compliqué à faire parce que, comme tu dis. Que ce soit en chinois, ça existe aussi en japonais d'ailleurs, les japonais disent danmaku, appellent ça danmaku, mais en fait c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui serait simple à faire, parce que tu peux quand même exprimer beaucoup plus de choses en chinois qu'en en utilisant le langage
comme
latin.
vous voulez.
Ouais. D'ailleurs, c'est
Ouais,
pour ça
mais
qu'au
enfin même.
passage, Weibo, à la limite des 140 caractères, ça a jamais eu tellement de sens sur le Twitter chinois parce qu'en 140 caractères, tu peux exprimer beaucoup plus de choses que en chinois que tu ne peux le faire en anglais ou en français.
Carrément.
Mais c'est vrai que bah oui, c'est peut-être que finalement le langage l'anglais est tout simplement pas adapté pour ce genre de choses.
Mais je me demande, tu sais, sur on parlait de Periscope juste avant de commencer le podcast. Tu sais, quand tu es sur Periscope, tu peux envoyer des emojis. Pareil sur Instagram et Facebook Live. Et finalement, en fait, ce que c'est pas finalement pas si éloigné, parce que pour nous qui utilisons des caractères latins, en fait, le moyen le plus simple pour envoyer une émotion, ou une idée, en fait, c'est d'utiliser des emojis, parce que ça prend pas beaucoup de place, l'idée est quand même assez bien véhiculée, alors que finalement, pour quelqu'un qui parle le chinois, le coréen ou le japonais, bah, en un caractère ou deux, t'as quelque chose de vraiment plus
Abouti.
défini.
Ouais. T'as exprimé une opinion et une contre-opinion en trois caractères.
Non, mais c'est ça.
Ouais.
Et donc, du coup, ben, oui, ça a du sens. Et puis même, quand tu regardes une vidéo, t'as pas envie de lire une phrase qui fait trois scènes, en fait, par
Ouais,
exemple.
alors bah ouais, mais oui, ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, t'as pas envie de te lancer dans la lecture d'un paragraphe. Mais pour en revenir à quand même la densité d'information, en dépit du fait que, comme tu dis, en chinois, tu exprimes beaucoup plus en peu de place. Encore une fois, on va vous mettre des captures d'écran. Il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à lire, quoi. Donc je sais pas exactement en pratique. Je demandais un petit peu aux gens qui sont experts autour de moi pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que tu te concentres sur un seul commentaire ou est-ce que tu lis plusieurs commentaires à la fois? Est-ce que tu revois la scène plusieurs fois pour lire tous les commentaires? Est-ce que tu fais arrêt sur image? Enfin, tu poses la vidéo pour prendre le temps de lire. Je sais pas exactement comment tu t'y prends. Mais je pense qu'à un moment donné, il doit falloir faire un choix. Tu peux pas tout lire et suivre la vidéo à l'écran, c'est pas possible. Donc ouais, je sais pas exactement si c'est quelque chose qui va se développer vers chez nous, mais c'est quand même intéressant de voir que encore une fois, le web chinois est assez bah assez innovant en fait, parce qu'il crée des nouveaux usages dont
Mais
on
tu sais,
n'aurait
en
même
fait,
pas idée chez nous en fait.
je coupe parce que j'ai. Tu sais, je viens de me rendre compte qu'en fait, on a un peu déjà la même chose aux États-Unis. Quand tu regardes des débats politiques, souvent en bas, en fait, ils affichent des tweets.
Ouais, c'est vrai.
Tu sais, qui défilent, en fait, à la façon d'un ticker sur une chaîne de news, d'information.
Ouais.
Et finalement, est-ce que ce serait pas. C'est quand même assez similaire, puisque c'est quasiment du direct. Et ça parle du sujet que tu es en train de regarder, donc
Ouais, mais encore une fois, tu vois, on n'est pas bah là,
on
c'est
n'est pas
pas
en train de recouvrir
forcément
son écran.
c'est ouais, alors déjà d'une part, et puis après c'est pas du direct aussi, quoi. Donc je sais pas. Ouais. Tiens, je viens de trouver une je fais des recherches en même temps que je parle, c'est pas bien. Je viens de trouver une extension Chrome qui te permet de faire du Danmu sur YouTube.
Ah ben
Je
voilà.
pense qu'on va tester ça, on va s'y mettre. On va tester ça et puis on va vous faire. Je vais mettre le lien, tiens, comme ça vous pouvez le retrouver dans les émissions et puis on va explorer ça dans les semaines à venir et puis essayer de vous faire un retour pour le prochain épisode. Ok, t'as quelque chose à ajouter sur les Danmu ou les bullet comments?
Non, pas vraiment. Si ce n'est que le nom Bullet Comment, en fait, c'est parce qu'il défile de droite à gauche, d'une
D'accord.
façon horizontale. Et j'avais pas trop compris. En fait, pour moi, quand j'ai lu Bullet Comment, je pensais que c'était une liste, en fait, tu vois,
Ouais.
de commentaires qui étaient genre la façon d'une liste un ordre de liste, je sais pas comment on dit en français.
Ouais, une bullet point list, on va dire, on
Ouais.
va utiliser le mot en
Alors
anglais.
qu'en fait, non, c'est juste parce que ça défile
Ça fait comme des balles de pistolet qui traversent ton
c'est
écran.
ça, ouais.
D'accord.
Exactement.
Ok. On passe au follow.
Allez,
Alors,
qu'est-ce que tu nous as?
je vais parler vite fait du mien parce qu'il est sympa, mais il est pas aussi intéressant que le tien. En gros, c'est Lost in Iceland. C'est un compte Instagram. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'aller en Islande, Stéphane.
Une fois.
Une fois.
Mais on, je changeais d'avion, donc c'est pas, ça compte pas.
Ouais, j'ai eu l'occasion d'y aller très rapidement, il y a un an, un peu plus d'un an. J'ai pas passé très longtemps, j'ai passé un peu plus de 24 heures, mais j'ai quand même eu le temps de voir deux, trois trucs. Pas autant que ce que le, ce que ce compte Instagram vous montre. En gros, c'est juste des images magnifiques d'Islande. Donc, bon, voilà, c'est pas nouveau. Je pense que tout le monde est au courant que l'Islande est un joli pays à condition de pas avoir peur d'avoir un peu froid. Si vous y allez pas pour le soleil et la plage et les noix de coco glacées, c'est quand même une chouette destination. Et donc voilà, donc ça s'appelle Lost, c'est lost.in.iceland et c'est un joli compte Instagram avec des jolies photos.
Ouais, c'est vrai. C'est des belles photos.
Voilà. Ok, à toi. Le tien est un peu plus intéressant.
Alors moi, c'est un. J'ai perdu énormément de nuits en fait à cause de ce compte. C'est un compte Twitch à la base.
Alors en Twitch, français, ça s'appelle... qu'est-ce que c'est que Twitch ? Dis-nous rapidement.
Alors Twitch, ça a commencé dans les années 2000. Ça a été créé par quelqu'un qui s'appelle Justin, qui avait fait cette plateforme qui s'appelle Justin.tv, où il était en train de, en gros, il streamait sa vie en ligne. Et ensuite, il a un peu créé une version qui permettait de faire ça pour plusieurs personnes. Et puis finalement, il a aussi créé une version qui permettait de faire ça autour des jeux vidéo. Et Twitch a été racheté par Amazon il y a quelques années maintenant. Et aujourd'hui, Twitch est utilisé comme plateforme de streaming par un peu n'importe qui. Enfin, pour un peu n'importe quoi d'ailleurs aussi. Donc, il y a du fitness, il y a de la cuisine, il y a des débats politiques.
Il y a même eu des débats politiques, ouais, en effet. Des débats politiques français, et, d'ailleurs, si je me rappelle bien, sur Twitch.
Et bah d'ailleurs, en parlant de politique française, il y a... en décembre, il y a beaucoup de gens qui font du streaming autour des jeux vidéo qui ont commencé une chaîne de streaming sur Twitch pour supporter le mouvement des grévistes. Donc en fait, ils se relaient. Je pense qu'ils ont tenu pas mal de temps d'ailleurs, plusieurs, peut-être au moins 24 heures en tout cas.
D'accord.
Et donc c'est quand même quelque chose qui est utilisé pour. Ça reste du jeu vidéo, mais il y a aussi un côté politique. Et donc récemment, donc en décembre, j'ai découvert le compte de quelqu'un qui s'appelle Kid Boga, qui est un streamer américain qui fait du ce qu'on appelle en français du croc escroc et en anglais c'est...
du croc escroc, tu l'as inventé ce mot-là, non ?
Non, c'est sur Wikipédia. Le croc escroc est une forme de vigilantisme informatique où une personne se présente comme une victime potentielle à un escroc afin que celui-ci perde son temps et ses ressources. Tout en accumulant des informations qui seront ensuite confiées aux autorités. Et d'accord. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'il fait.
C'est genre le Batman de Twitch, un peu.
Exactement. Donc, une fois par jour, il va appeler un numéro de scam et il va occuper leur temps. Et ça dure plusieurs heures. Hein. Généralement, il tient avec eux 3-4 heures par jour où il va essayer de récupérer des informations pour pouvoir les dénoncer. Et en gros, mais son but principal, c'est de leur faire perdre leur temps tout en s'amusant. Donc en fait, il a inventé plusieurs personnages. Donc il se fait passer pour une vieille dame ou une valley girl ou un papa russe. Enfin, c'est assez rigolo en fait, et c'est très divertissant parce que les scammers sont donc les escrocs sont, enfin, perdent vraiment leur temps. Donc finalement, ils s'énervent assez rapidement. Enfin, ils prennent leur temps pour s'énerver, mais quand ils commencent à s'énerver, c'est assez violent parce que ils se rendent compte qu'en fait, ils ont perdu 3-4 heures de leur vie en fait. Mmh. Et donc ils stream sur twitch.tv/kidboga une fois par jour, quasiment tous les jours de la semaine. Et il y a ces vidéos en replay un peu éditées, donc qui permet de regarder des vidéos qui durent normalement 4 heures en 20 minutes sur YouTube.
D'accord.
Donc chercher Kid Boga sur YouTube, et c'est vraiment bien en fait.
Mais
et,
alors
et,
du coup,
et même les... même sans parler anglais, je pense que ça reste un plaisir puisque de toute façon c'est pas très compliqué.
Ouais, donc ça se passe en anglais. Et alors attends, tu dis qu'il est il pose des questions, mais enfin ça marche comment en fait? Il leur fait perdre leur temps, mais il est au téléphone avec eux ou c'est via...
Exactement, chat? Donc en fait, il a une machine via... En fait, il fait beaucoup de croc escroc autour de, tu sais, des gens qui font du support technique. Donc en fait, il a des machines virtuelles en gros, il dit qu'il y a des problèmes sur sa machine virtuelle, donc les gens viennent et puis ils exécutent des commandes qui n'ont rien à voir. Mais c'est vraiment fascinant parce que par exemple, il y a une forme d'escroctisme, je sais pas le mot. d'escroquerie.
Mais si tu sais le mot, enfin.
Il y a une forme d'escroquerie où en fait, il reçoit un appel de quelqu'un qui va lui dire que, en fait, il a payé quelque chose il y a quelques mois. Et la compagnie a déposé le bilan, ce qui est très commun aux États-Unis en fait. Et donc du coup, la compagnie doit le rembourser. Donc là, jusque-là, tout va bien. Mmh. Et en fait, ils vont lui demander de se connecter sur son interface bancaire en ligne. Et donc, ils vont faire le remboursement avec lui. Et en fait, ça va être lui qui va devoir faire entrer le nombre de le chiffre, enfin le montant du remboursement. Et en fait, au moment où lui va entrer le montant du remboursement, eux, ils vont rajouter des zéros. Mmh. Donc en fait, au lieu d'être remboursé je sais pas moi, $400, en fait, ils vont lui faire croire qu'il a été remboursé de $4,000 et que c'est de sa faute. Et donc, en fait, pour pouvoir récupérer l'argent, en fait, il va devoir aller dans un Walmart ou un Target et acheter des cartes cadeaux Google Play pour leur donner, pour leur rembourser le montant. Et donc, en fait, lui, il a des mises en scène de malade. En fait, quand il dit qu'il va dans un Target, en fait, il joue à un jeu vidéo de voiture. Et donc, en fait, l'escroc pense qu'il est vraiment en train de conduire. Et des fois, l'escroc lui demande est-ce que tu peux klaxonner et tout, et lui il est en train de klaxonner dans le jeu vidéo et vraiment l'escroc en face qui est perdu quelque part en Inde ou en Afghanistan ou au Pakistan, il croit vraiment que la grand-mère est en train d'aller à Target acheter sa carte cadeau Google Play. C'est super drôle.
Et comment il fait pour les voix du coup?
Il a un modificateur de voix.
D'accord.
Qui est un matériel que tu peux acheter sur Amazon, qui est vraiment cool.
Ouais, donc le mec, c'est un pro, quoi. Il a vraiment...
Ah oui, non, mais ça fait 2 ans que... C'est son job, c'est son full-time job. C'est son travail à temps complet. Et il fait ça depuis 2 ans maintenant.
D'accord.
Tous les jours.
Et, ok.
Je vais essayer de trouver une vidéo qui est vraiment cool et comme ça, on pourra la mettre
en description. On la mettra dans les notes des émissions, ouais. Donc c'est Kid Boga sur Twitch et sur YouTube. Si vous avez pas 4 heures devant vous pour le regarder escroquer les gens. Donc voilà. Ok.
Ouais.
Bon bah écoute, super. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est là où tu dis de rien.
De rien. Non, je pensais que t'allais conclure.
Ouais.
Mais de rien, Thomas.
On arrive à la fin de l'émission. Bah écoutez, merci encore à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes un petit nombre hein, à nous écouter, donc tout ça augmente à chaque fois, ça continue à augmenter, donc ça fait plaisir. On n'entend pas souvent parler de vous en fait, donc n'hésitez pas. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Franchement, si on vous mettait tous dans la même pièce, ça ferait quand même une sacrée assemblée. Donc ça fait toujours plaisir de raisonner en ces termes-là, de se dire qu'il y a des gens de l'autre côté qui prennent le temps de nous écouter jusqu'au bout. On fait pas seulement, même si ça nous fait super plaisir de nous retrouver avec Stéphane tous les mois pour discuter des réseaux sociaux, on le fait aussi pour que des gens nous écoutent. Donc tout ça pour dire que si vous avez envie de nous faire un petit retour, de poster un commentaire sur Apple Podcast ou de nous faire un petit tweet, n'hésitez pas à nous répondre et à interagir avec nous si vous pensez que les bullet comments c'est complètement débile et que vous détestez TikTok ou l'inverse, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'ailleurs Stéphane, si on veut interagir avec toi, où est-ce qu'on te retrouve?
Alors moi je suis sur Twitter, mon pseudo c'est Stéphane.
@Stéphane sur Twitter, ça n'a pas changé. Et moi c'est @LéthargiquePanda sur Twitter aussi. Donc voilà, et puis on est aussi sur hashtags avec un S_pod sur Twitter si vous voulez suivre les épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent. Voilà, et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur #podcast.com. Je suis en train de vérifier parce qu'à chaque fois j'oublie, mais non, je suis à peu près sûr que c'est ça. #podcast.com pour retrouver tous les épisodes, et #-pod, hashtag avec un S-pod sur Twitter pour nous suivre sur Twitter. Et puis voilà, suivez le compte Twitter parce qu'il va se passer 2-3 petits trucs dans les semaines à venir, je pense. Pour encore une fois ne pas trop en dire, c'est le moment ou jamais de nous suivre sur Twitter. Voilà.
Exactement.
Bon, écoute Stéphane, ça fait plaisir comme d'habitude, et puis
à la prochaine. Ciao.
Allez, ciao.